Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 11e numéro de On va se faire foutre. Et avec moi ce soir depuis Saint-Cyrault, Marc Abal
Salut à tous.
et Daniel Montero avec son beau maillot du Manchester United.
Bonsoir.
Au menu ce soir, on va débriefer, on va analyser les deux demi-finales de Ligue des Champions et un peu plus tard, dans la partie prono, les deux demi-finales de Ligue Europa. On va laisser de côté la Ligue Europa Conférence parce qu'on est d'accord, ça intéresse personne. Mais sans aucune transition, on va démarrer par l'actualité qui a agité ce début de semaine. Semaine, c'est le départ de Jean-Michel Aulas, de la présidence de l'Olympique Lyonnais, ici présent. Donc, qui a quitté son poste dimanche soir ou lundi matin, on ne sait pas très bien. En tout cas, qui a quitté son poste de manière brutale, qui a été démis de ses fonctions par le groupe américain, par John Textor, qui a racheté l'Olympique Lyonnais. Et donc, on a appris cette nouvelle hier matin par un communiqué abrupt de 10 lignes, je crois, indiquant le départ de Jean-Michel Aulas après 36 ans de présidence de l'Olympique Lyonnais. Donc, Jean-Michel Aulas, c'est quand même un président omniprésent et on va sur tous les fronts, on va dire, ces 36 dernières années, qui a fait monter l'Olympique Lyonnais de la deuxième division vers quasiment les sommets du football européen. Donc, ma première question, elle est très, très simple, elle est prête à débat. Est-ce que vous considérez que Jean-Michel Aulas, c'est le plus grand président de club de l'histoire du football français? Marc, depuis le Saint-Cyrault au Québec, donc.
D'abord, pour moi, c'est pas une surprise ce qui arrive là. Parce que quand tu fais rentrer un actionnaire américain, lui, sentiment ou pas, il n'y en a pas. C'est vraiment les résultats. Et les résultats ne sont pas là. Ils sont pas là depuis des années. Donc, je ne suis pas trop surpris de ce qui se passe. Hein. Ensuite, ben, c'est indéniable. C'est un des présidents les plus emblématiques, en tout cas, qu'on a connus dans l'histoire de la Ligue 1. Il y a eu d'autres présidents importants, il y a eu Claude Béze, il y a eu Campora, il y a eu Louis Nicolin, je veux dire, il y a eu vraiment des présidents qui ont marqué. Mais lui, il a autre chose, il a un côté politique, il a un côté très à l'aise avec les médias, il a un charisme, il est impliqué à tous les échelons du foot français. Il a, comme tu l'as dit, en 87, repris le club en D2, il les a fait remonter. Il a réalisé ce que finalement personne n'a réussi à faire, y compris les Qataris, c'est-à-dire 7 titres de champion de France d'affilée entre 2002 et 2008. Le centre de formation exceptionnel qui a fait sortir des joueurs incroyables. Je veux dire, qui a rivalisé Campora peut-être avec Monaco, qui a fait sortir aussi des Thuram, des Thierry Henry, etc. Mais ça, vraiment, il a marqué vraiment le foot français et je ne pense pas qu'on puisse dire autre chose à ça. Il y a aussi la section féminine aussi, hein, 8 fois championne d'Europe, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Il a assaini les finances. Il a créé un stade de foot il y a l'OL qui est en bourse. Je veux dire, à tous les niveaux, il a mis Lyon sur le toit de la France et puis pas sur le toit de l'Europe, puisqu'il a fait 2 demi-finales et puis qu'il n'a jamais été en finale. Il ne l'a jamais gagné, a fortiori, mais ça a été vraiment un président exceptionnel. Après, là où je ne suis pas étonné, c'est que je mets un gros bémol sur ces dernières années. Lyon, avec un budget tel qu'il a, devrait être deuxième derrière Paris. Il devrait se battre à la régulière avec Paris tous les ans pour le titre de champion. Et il devrait pas y avoir de contestation. Il devrait être deuxième pour moi tous les ans derrière Paris, si ce n'est devant Paris. Il y a eu des choix d'entraîneurs très moyens. Moi, je trouve que Rudy Garcia, c'était vraiment un choix. Je ne sais pas d'où il sort. Laurent Blanc, je trouve que c'est un choix. Je me suis déjà exprimé à ce sujet. Je pense que c'est un choix plus que douteux. Au niveau des directeurs sportifs, je pense aussi que depuis des années, il faut me citer 5 joueurs valables qui ont été, d'aller, on va dire, les 5 dernières années qui ont été recrutés et tous les échecs qu'on peut mettre en face de ça, qu'on peut ressortir aussi. Donc, je pense que oui, ça a été un président exceptionnel, mais je mets un gros bémol sur les 6 ou 7 dernières années où Lyon, pour moi, n'est pas à sa place. Alors, oui, il y a eu une demi-finale contre le Bayern. Il y a eu une demi-finale contre l'Ajax, si je ne me trompe pas, en Ligue Europa. Mais à part ça, c'est très compliqué.
Dani?
On a été un peu surpris quand même par la nouvelle. Maintenant, pour répondre à ta question directement, est-ce que c'est le plus grand président qu'on ait eu en France? Pour moi, non. Pour moi, le plus grand président en France, c'est quand même Bernard Tapie. Même s'il y a toutes les polémiques autour, ça reste quand même le seul président qui a gagné une Ligue des Champions. Donc, on peut discuter hein, sur les méthodes,
Ah, on
sur
va...
tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a.
T'inquiète pas, on va
On
discuter sur
peut.
les méthodes.
On peut. Ça, j'en suis sûr. On n'est pas, bien évidemment, forcément d'accord avec tout ce qu'il y a autour. En attendant, sur le plan européen, parce que ça reste quand même un prestige pour un club de gagner une compétition européenne, et qui plus est la plus belle, la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille l'a gagné avec Bernard Tapie. Mérité ou pas, ça on peut en discuter, mais en tout cas, il a ce crédit-là, ce que n'a pas Jean-Michel Aulas. Alors, il a autre chose. Bon, Marc, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Marc, je suis complètement d'accord avec tout le déroulé. Hein. Ça reste quand même exceptionnel ce qu'il a fait sur l'année de 2002 à 2008, où il a 7 titres d'affilée avec les entraîneurs Santini, il y avait Paul Le Guen, Gérard Houllier d'ailleurs, qui s'est retrouvé après à Liverpool. Donc, il a quand même eu entre les mains. De belles équipes avec l'arrivée de Sonny Anderson aussi, qui a été un bon moteur au niveau de cette équipe. Et c'est vrai que sur le plan européen, il aurait pu aller un petit peu plus loin. Ça n'a pas été le cas. C'est peut-être un regret qu'il doit forcément avoir. En tout cas, ça reste un très grand président. Son œuvre, elle restera clairement marquée au sein du club. 36 ans, Marc le disait aussi sur l'aspect du football féminin. Et là, pour le coup, sur le plan européen, puisqu'il a quand même été assez loin sur le plan européen, là, pour le coup. Ça restera de toute façon un très grand président de club en France, mais pour moi, pas le plus grand.
Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Donc moi, pour moi, c'est un des deux plus grands. Je dirais après lequel je mets un petit peu à son niveau après. C'est un qui n'a pas cité Marc. Justement, il en a oublié un qui pour moi est assez important dans l'histoire du football français. Sur tous les noms que vous avez cités, que ce soit Marc ou toi, Dany, moi, le seul problème que je vois, c'est qu'ils sont tous repartis avec des casseroles. Que ce soit Bernard Tapie, il a été condamné, Claude Béze a été condamné et il a laissé le club en faillite.
Louis-Nicolas.
À Louis Nicolas, il n'est pas parti avec des casseroles. Et ce qu'il a fait du club est encore sans doute plus impressionnant que ce qu'a fait Jean-Michel Aulas, parce que lui, il est parti d'un club qu'il a créé, qui était un club corpo, c'est-à-dire un club d'entreprise.
Exact.
Et il en
Ouais,
a fait
tout à
un
fait.
club.
En 74, il a commencé.
Ah,
Ah, c'est
il en a fait un club champion
vrai.
de France et vainqueur de la Coupe de France. Donc c'est quand même assez exceptionnel ce qu'il a fait. Louis Nicolas, et c'est vrai qu'il est peut-être de ce point de vue-là, d'un point de vue bâtisseur, au même niveau que Jean-Michel Aulas. Mais donc, si vous reprenez Claude Béze, Tapie, Campora ou Roger Rocher à l'époque du Grand Saint-Étienne, ils sont tous partis par la petite porte, c'est-à-dire avec des casseroles et des procès, voire des condamnations pour au moins trois d'entre eux. C'est pas le cas de Jean-Michel Aulas. Voilà, Jean-Michel Aulas, c'est quelqu'un qui, de manière surprenante, effectivement, et pas surprenante, on le demande de prendre la porte. Pas surprenante, eu égard, effectivement, au fait que quand tu deviens actionnaire minoritaire de ta propre boîte, parce que tu fais rentrer des actionnaires majoritaires, bah, t'as plus la main, et quand on veut plus de toi, c'est bien normal que l'actionnaire majoritaire reprenne la main sur les décisions. Donc, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Il a décidé de vendre la plupart de ses actions, il n'en a que 8% aujourd'hui, donc bah, il laisse la place. Surprenant, eu égard quand même à ce qu'il représente dans l'institution Olympique Lyonnais. Après, voilà, d'un point de vue du palmarès, ce qu'il a fait, c'est unique. Voilà, il y a 7 titres de champion de France, il y a 2 Coupes de France, il y a 2 Coupes de la Ligue chez les garçons. Bon, les trophées des champions, on va pas s'amuser à les compter parce que bon, c'est un trophée mineur. Au niveau de la Coupe d'Europe, il n'est pas ridicule, il a quand même 3 demi-finales. Je ne sais pas combien de quarts de finale à l'époque de la grande équipe qui est derrière moi avec Juninho et consorts. Donc c'est pas ridicule. Ce qui fait la différence, tu sais, des fois entre la réussite et l'échec en football, c'est un poteau, c'est des décisions d'arbitrage, c'est voilà. Des fois, tu passes pas très loin de oui, bah, il serait égalité avec Bernard Tapie parce que l'année où ils se font éliminer en quart de finale par le PSV Eindhoven au tir au but.
Ah ouais,
On n'enlèvera
un
pas de l'idée
scandale.
qu'il y a un pénalty flagrant en prolongation sur Neymar.
C'est clair.
Ils doivent passer
Ah
en
ouais.
demi-finale et que très certainement, s'ils passent en demi-finale, ils la gagnent parce qu'il n'y a pas beaucoup plus fort qu'eux cette année, sur cette année-là. Et d'ailleurs, je crois que, ben, que le Milan AC perd ensuite en finale au tir au but contre comment s'appelle contre le Liverpool cette année-là. Donc je pense que cette année-là, il n'y avait pas beaucoup plus fort qu'eux. C'est pareil, l'année d'après, ils perdent dans les derniers instants sur une cagade d'Abidal à Milan, alors qu'ils ont fait un match extraordinaire. Pareil, ils ont une équipe extraordinaire. Donc ça se joue à pas grand-chose, le destin européen de l'Olympique Lyonnais. Et effectivement, pour moi, c'est un des plus grands par rapport à tout ce que vous avez dit. Et le seul qui, à mon avis, peut rivaliser, c'est au milieu des années 90, c'est Michel Denisot, par rapport à ce qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain. Il a gagné, lui, une Coupe d'Europe. Apparemment, c'est un critère pour Dani. Et il avait amené Paris dans des sphères que le PSG n'avait jamais connues. Je sais que les Qataris ont tendance à croire que Paris n'existait pas avant eux, mais le Paris de l'ère Canal+, de l'ère Michel Denisot, c'était quelque chose quand même d'assez exceptionnel, même si moi, ce n'était pas forcément ma tasse de thé, en tout cas au début, mais il faut reconnaître ce qui est. Et moi, je trouve qu'il y a autre chose qu'on doit porter au crédit de Jean-Michel Aulas, c'est qu'il a réussi à bâtir des équipes avec des moyens, c'est clair, parce que pour l'époque, je crois que c'était le club qui avait le plus de moyens quand ils étaient ultra dominants. Mais on n'était pas dans une politique de transfert comme l'est celle du PSG aujourd'hui, comme a pu l'être celle de l'OM de Bernard Tapie, ou celle de Bordeaux de Claude Béze, ou Rocher de, enfin, la Saint-Étienne de Rocher. Parce que les Juninho, les Cassapa, les Chris, quand ils vont aller chercher à l'étranger, personne ne les connaît. La première équipe qui gagne le titre, il gagne le titre avec des Philippe Biolo, des Pierre Laigle, des Christophe Delmotte, enfin des joueurs qui sont pas quand même des foudres de guerre. Donc il y a une politique sportive et effectivement il y a une direction sportive qui est hyper pointue à l'époque. Et on n'est pas sur juste on a des moyens et on prend toutes les vedettes et on écrase tout le monde, quoi. Ça c'est venu dans un deuxième temps effectivement. Après à force de gagner les titres, ils étaient ultra dominants, ils avaient beaucoup beaucoup d'argent et ils allaient acheter les meilleurs joueurs de Ligue 1. Donc ouais, pour moi, c'est le plus grand, sans doute à égalité avec Denisot.
Non, une coupe des vainqueurs de coupe, ça vaut pas une Ligue des Champions, mais bon.
Tu sais, quand tu prends les vainqueurs de la Coupe des Coupes, quand même, quand tu prends le palmarès, quand même des sacrés vainqueurs, hein. Tu retrouves pas le Steaua à Bucarest ou l'Étoile Rouge Belgrade ou je sais pas quoi, vainqueur de la Coupe des Coupes.
Mais c'est vrai que ça reste une belle époque, et tu as raison de citer Michel Denisot parce que ça a été quand même l'époque d'or du Paris Saint-Germain, hein, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs.
Et est-ce que l'année d'après où ils sont en finale contre le Barça, c'est encore Michel Denisot? Ouais, donc quand même, il a failli gagner deux fois. Il a perdu 15-0 en finale, hein. Ça a été un match
Ils font
accroché.
cinq demi-finales d'affilée, le PSG de Michel
Donc,
Denisot, deux finales d'affilée. C'est les Qataris n'ont pas ces résultats-là.
eh ouais, non,
Quelle
c'est
que soit
clair.
l'équipe européenne. Et puis, tu parles de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, ce qu'elle était dans les années 90, quand Marseille la gagne, avec la Ligue des Champions maintenant, ça n'a rien à voir. Je pense que, par exemple, c'était plus difficile d'être finaliste ou de gagner la Coupe UEFA à l'époque que de gagner la
Ah
Coupe.
oui. Ah ouais, c'est
Que la
clair.
Coupe UEFA, tu avais tous les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes de tous les championnats. L'année où Paris perd en demi-finale de la Coupe de l'UEFA, ils ont éliminé Anderlecht, ils ont éliminé le Real, ils ont éliminé Naples et ils perdent contre la Juve. C'est quand même autrement costaud que d'aller gagner la Ligue des Champions en jouant contre les Rangers, Bruges et le CSKA Moscou, excuse-moi. Les compétitions n'étaient pas, franchement, elles n'étaient pas
Non, c'est
fabriquées
clair.
pareil. Et honnêtement, à l'époque, tu voyais des plus gros matchs en regardant la Coupe UEFA qu'en regardant la Ligue des Champions. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait fusionner un peu le tout, quoi. Mais bon, c'est une autre histoire que les moins de 20 ans ne peuvent pas
C'était une autre époque.
connaître. Donc, pour les plus jeunes qui nous regardent, la Coupe UEFA, c'est l'ancêtre de l'Europa League. Je vous propose de passer à cette semaine européenne et de commencer
Allez.
avec le match qui viendra juste après la fin de cette émission, la revanche entre le Real Madrid et Manchester City. Donc le match se joue à Madrid, entre deux équipes donc, qui se sont affrontées l'an dernier au cours d'une double confrontation exceptionnelle avec, on se souvient, deux buts dans les arrêts de jeu qui ont éliminé Manchester City de sa deuxième finale consécutive. Et donc la question que je vous pose, puisque Guardiola arrive souvent en demi-finale, je crois que c'est l'entraîneur qui est arrivé le plus souvent en demi-finale, finalement, pour un taux d'échec assez élevé, puisqu'il a fait que deux finales avec le Barça. Et la plupart de ces demi-finales, elles sont perdues contre le Real Madrid, figurez-vous, que ce soit avec le Bayern ou que ce soit avec City. Donc la question que je vous pose, c'est finalement, est-ce que le Real Madrid, c'est le plafond de verre de Guardiola? Et est-ce que cette année, il arrivera à briser son plafond de verre? Donc Dani.
Ben ouais, déjà c'est assez fou quand même qu'on retrouve ce match-là l'année suivante. Alors avec des conditions différentes puisque l'an dernier donc City jouait, enfin le Real jouait à domicile pour le match aller. Non, pardon, City jouait à domicile pour le match aller et
Et
le
le
Real
Real
jouait à
recevait au
domicile pour
retour.
au retour. Alors que là ça va être l'inverse. Bon, ça peut être un détail, mais qui peut être important. Parce que City à domicile cette année, c'est quand même assez. On dit ça tous les ans, hein, mais là, quand même, cette année, c'est quand même assez exceptionnel. Ils sont impitoyables. En plus, là, ils reviennent d'une série où ils reprennent la tête du championnat. Et propre en plus, hein, sans rien à dire. C'est une équipe qui marque énormément de buts, qui en encaisse très. Très peu. C'est quand même la deuxième meilleure défense. Bon, c'est pas la meilleure défense d'Angleterre, mais c'est la deuxième derrière Newcastle. C'est vrai qu'ils encaissent que 31 buts sur l'ensemble des matchs de championnat, ce qui est quand même assez peu. Alors, ils ont une défense de fer, mais ils ont surtout un très très bon gardien. Et en face, tu as le Real de Madrid qui a un championnat assez compliqué cette année. Ils sont troisième derrière l'Atlético. Ils sont qu'à un point de l'Atlético, mais bon, le championnat en Espagne, il est joué. Hein, le Barça va être champion. Donc, est-ce que c'est pas l'année justement de Guardiola? C'est peut-être l'année ou jamais. Alors en plus, il peut marquer le coup avec. On l'a vu dans l'émission précédente. Il peut faire la totale là cette année. Hein, championnat, Ligue des Champions, pourquoi pas la Cup. Tu as raison en disant que c'est peut-être le toit de verre parce que les chiffres sont là et les faits sont là. L'historique est là. Maintenant, cette année, avec un Haaland, avec la forme qu'il a, un Guardiola qui a l'air quand même assez apaisé dans ses stratégies qu'il propose, j'ai quand même l'impression que la maturité de City, là, aujourd'hui, va payer
Mais on a
sur
l'impression
l'ensemble des deux matchs.
on a l'impression que finalement les seules fois où Guardiola a battu le Real, c'est quand il avait Messi et Xavi et Iniesta, excusez-moi un peu, et que sorti de là, bah, finalement, il n'a plus la recette pour les battre. Donc est-ce qu'il fait un complexe d'infériorité? Est-ce qu'il y a quelque chose autre que l'arbitrage, hein, parce que ça joue souvent en faveur du Real, qui explique que Guardiola a du mal, je sais pas, Marc.
Ben, si on regarde bêtement les chiffres, c'est 21 confrontations hein, contre le Real Madrid et c'est 12 victoires. Mais bon, comme tu le dis si bien, et les grosses victoires, ça a été avec le Barça. Il y a une grosse marge d'avance sur la quantité de buts marqués aussi, contre les buts encaissés. Guardiola contre Madrid, c'est plus de victoires, c'est plus de buts marqués, plus que des buts encaissés.
Ouais, mais pas depuis
Mais
qu'il a quitté le Barça.
c'est ça, j'allais venir. Effectivement, depuis avec le Bayern, il y a une énorme défaite. Je crois qu'il y a eu un 4-0 en 2014 ou 2015, je sais plus. Non, plus tard que ça. Plus
À
tard que ça,
Munich.
je sais plus.
À
Ouais,
Munich.
à Munich.
C'était à Munich, en plus,
Munich, c'est ça, c'est à Munich.
ouais.
Et moi, là, Guardiola, ça fait partie des entraîneurs comme Mourinho. Ils ont quelque chose, ils ont une aura. C'est l'impact qu'ils ont, tout manager a un impact sur ses équipes. Et l'aura de Guardiola est énorme. Je reste néanmoins persuadé qu'il a été traumatisé l'an passé. À 2 minutes près, il était en finale de la Ligue des Champions et le Real a marqué en peu de temps. Et je pense que ça l'a profondément marqué. Parce qu'encore une fois, comme vous l'avez dit, depuis le Barça, bah, il n'a plus gagné la Champions League. Hein. Je crois que sa dernière victoire, c'est en 2015.
2011,
C'est
2011.
ça.
2011.
À 2011, donc t'imagines.
2015, c'est Luis Enrique qui est entraîneur du Barça.
C'est ça, c'est ça. Et avec les équipes qu'il a eues derrière, quand même, je veux dire, il y avait de quoi avec le Bayern aussi, l'a gagné cette Coupe d'Europe. Et avec Manchester, je pense que ça commence à lui peser, tous ces échecs. Je pense qu'on lui rappelle régulièrement. Et en face de lui, ben, il se retrouve avec une équipe qu'il a battue à 2 minutes près l'an passé. Et je pense que ça, et tu vois, il y a un signe. Il y a un signe. Après, on voit des signes où on veut. Mais normalement, toutes les équipes arrivent 2 jours avant, histoire de s'entraîner la veille du match, de s'entraîner donc le lundi pour le mardi aujourd'hui, pour faire une reconnaissance au niveau du terrain. Et là, Guardiola a voulu arriver le plus tard possible lundi, donc hier, à 18h45, je crois, à Madrid, pour pas s'entraîner là-bas, simplement faire la reconnaissance au moment de l'échauffement. Alors, ça peut paraître anodin ce que je dis. Mais moi, ça, pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que c'est un entraîneur qui reste encore sur ce qui s'est passé l'an passé, qui, par superstition ou non, arrive dans des conditions, dans ce match-là, avec quelque chose, une nouvelle entrée en matière. Je pense que ça l'a profondément marqué ce match-là. Et je pense que ça va être un point déterminant parce que c'est Guardiola, encore une fois, il a une aura sur ses équipes, il les tient. C'est un des entraîneurs qui tient le mieux ses équipes et je pense que ça va être hyper important la manière dont lui va l'aborder, consciemment ou non, dans quel état d'être il va aborder ce match-là.
C'est intéressant ce que tu dis parce que l'anecdote que tu racontes montre justement que Guardiola, enfin, moi pour moi, ça dénote une certaine forme de fébrilité parce que quand tu es sûr de toi, tu casses pas tes habitudes.
Exact.
Et le fait de vouloir casser ses habitudes, de devenir superstitieux, etc., etc., montre que Guardiola, justement, quand vient le Real Madrid, eh ben, il est toujours en train d'innover, de chercher un truc différent et il joue pas sur ses forces.
Exact.
Je me rappelle très très bien la demi-finale Bayern-Real Madrid, le fameux 4-0 là dont vous évoquiez. J'ai un trouble très bien où est-ce que je l'ai vu à Lisbonne, avec qui, à la Taberna Ibérica. Mais on était tous sidérés, y compris de la manière dont Guardiola, ce jour-là, dans le match le plus important de la saison, alors que le Bayern avait tout écrasé sur son passage, a décidé d'innover comme il le fait en mettant Alaba ailier gauche, en faisant des trucs complètement improbables. Alors toi, tu surprends l'adversaire, sauf que tu surprends aussi ton équipe parce qu'elle ne sait plus comment elle joue. Donc, il se met dans une situation de stress, finalement, quelque part, où tu sais pas trop les joueurs où ils vont aller. Donc là, on sent effectivement que depuis 2 mois et demi, 3 mois, il y a un schéma de jeu bien défini. Un schéma assez particulier, d'ailleurs, assez novateur, là, où il a ses trois centraux, plus Joe Stones devant la défense. Il n'y a pas vraiment de latéraux. Il joue avec 5 attaquants quasiment. Enfin, c'est très bizarre. Il joue en 3-2-5 quasiment. C'est quelque chose d'assez particulier. Bon, il joue comme ça depuis 3 mois. Est-ce qu'il va vouloir jouer sur ses forces ou est-ce qu'il va essayer de faire autre chose parce que le Real, ben, mine de rien, il y a toujours un milieu de terrain qui peut te piquer même quand tu domines. Voilà. Ce qui est incroyable au Real Madrid aujourd'hui, c'est le fait que même quand ils sont dominés, tu sais qu'ils vont te mettre un but. Tu sais qu'à tout moment, tu peux avoir une ouverture de Modric dans la profondeur pour Vinicius et que le mec te met une valise incroyable et que voilà, tu perds. Tu sais qu'ils ont un des meilleurs gardiens du monde, que tu peux dominer tout le match, comme ça a été le cap de Liverpool en finale, que le mec va te faire les 4 ou 5 parades et que les autres, sur un tir ou un demi-tir, ça va rentrer. Donc c'est une équipe qui, même si elle est moins dominante, en tout cas en championnat que l'an dernier, le Real Madrid, ils inspirent la crainte. Et donc ils font quelque peu déjouer leurs adversaires. Moi, je crois qu'ils gèrent leur calendrier par rapport à ce que disait Dani tout à l'heure. Ça fait très longtemps qu'ils ont fait une croix sur le championnat, donc en championnat, ils n'ont pas grand-chose. On l'a vu en finale de Coupe du Roi samedi, en fait, ils ont géré le match. Ils jouaient contre Osasuna, ils ont mis l'équipe une, mais ils ont joué au petit trot. À chaque fois qu'il fallait accélérer, marquer, bon, ils ont accéléré, ils ont marqué. Mais ils ne voulaient pas trop se fatiguer pour le match de cette semaine. Donc, c'est une équipe imprévisible, c'est quand même globalement très 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 solide. Tu prends la colonne vertébrale du Real, c'est quand même très fort. Je sais pas aujourd'hui, compte tenu de la règle du but à l'extérieur qui a été supprimée, je sais pas si c'est un avantage de recevoir ou pas au retour. Je pense que ça change rien en fait.
Ouais, sauf qu'au retour, souvent Madrid a remonté des matchs impossibles. Quoi, ils ont toujours été avec leur
Ouais.
public, etc. Il y a une aura à Madrid, il y a quelque chose. Hein. Après, il y a peut-être une donnée aussi, c'est que Valverde du côté Madrid semble au bout du rouleau, là. Il semble très, très, très fatigué ces derniers temps. Il le dit lui-même qu'il est cramé. Et tu as Vinicius qui est extrêmement nerveux. Hein. Il prend, et je crois qu'il est à 8 cartons jaunes depuis le début de l'année. ne faudrait pas qu'il pète un câble. Hein, et je crois que Militao est suspendu pour ce match-là, donc en défense centrale aussi.
Ouais, mais ils ont du match, ils ont du monde. Il va mettre à la barre Rudiger en défense centrale, il mettra Matuidi arrière gauche.
Je pense pas que Militao, ça soit un problème, mais par contre, pour les deux autres, Valverde, c'est quand même, on le sait, l'importance qu'il a l'an dernier sur la demi-finale et sur la finale.
Ben,
On
moi, si
verra.
tu veux, pour moi, l'élément clé, ça va être Vinicius. Pas par rapport au talent de Vinicius, mais par rapport au problème tactique que Vinicius va poser, entre guillemets, à Guardiola. Comme je dis, Guardiola, ça fait 3 mois et demi qu'en gros, il joue sans latéraux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que jouer sans latéraux face à gauche Vinicius et à droite, si Valverde joue pas, ben, sans doute que c'est Asensio qui va jouer. Alors, Asensio, il rentre plus sur son pied gauche. Donc, je sais pas comment il va articuler ça. Mais ne pas avoir de vrais latéraux face à Asensio. Alors, on voit comment il les a joués à l'époque avec Paris. Tu avais Kyle Walker qui s'était.
Bah, apparemment, c'est Walker qui va prendre Vinicius.
Voilà, comme Walker avait pris Mbappé. Mais
La
a
vitesse.
priori, ça veut dire qu'il ne va pas jouer avec le schéma dans lequel il joue depuis 3 mois.
Déjà, Ake est blessé, hein. Donc, en défense centrale. Donc,
Ouais,
déjà,
donc
il
tu vas
jouera
jouer
avec
avec Ruben Dias, Akanji et Kyle Walker.
Walker, c'est ça.
Sauf s'il repasse à 4 derrière. Je ne sais plus quel match j'ai vu la dernière fois où il était repassé à 4 derrière, justement. Mais le match contre Arsenal. Le match contre Arsenal, où ils sont
Ah ouais,
lancés devant le
exact.
championnat, il était repassé à 4 derrière. Donc faut voir, tu vois, il a tendance à s'adapter. Bon, moi, après, honnêtement, je pense que. Sur le papier, City est quand même mieux armé que l'an dernier, ne serait-ce que
Ben
parce qu'on a Haaland. Voilà.
oui.
On l'a déjà dit ici, ça leur donne une palette tactique différente. C'est-à-dire que là maintenant, ils peuvent marquer en 3 passes. On l'a vu.
Bernardo Silva est en feu.
Non, mais vraiment, moi, je pense que si tu veux, tu disais, il a appris de l'an dernier. L'an dernier, on en parlait tout à l'heure pour l'Olympique Lyonnais sur l'histoire du poteau, de l'arbitrage, etc., etc. L'an dernier, tu as la frappe de Grealish qui passe à ça du poteau. Ou qui est sauvé sur la ligne, je crois, à ça. Et sur le contre, tu as le but de
Il est
Rodrigo.
sauvé sur la ligne.
Et sur le contre, tu as le but de Rodrigo. Donc ça se joue 6 cm l'histoire. Donc voilà, il a appris de ça. Là, aujourd'hui, City a un autre éventail tactique, notamment sur le jeu en pivot d'Haaland et sur un jeu beaucoup plus direct. Donc je pense pas qu'effectivement demain, ils prennent trop de risques. Enfin, ce soir, pardon, je pense pas que ce soir, ils prennent trop de risques. Et qui risque d'essayer de jouer la qualif, à mon avis, chez eux à l'Etihad Stadium. Donc, on se lance un prono pour demain, Dani.
Moi, pour demain, je pense qu'il y aura un match nul. Et tu le disais à l'instant, moi, je pense que la décision va se jouer à City. Et moi, demain, je prévois un match nul de partout et une décision à City où City va passer cette année.
Marc?
Bah, un peu sur la même chose, en fait. Je vois un match nul aussi, mais un partout.
Moi aussi, je vois un match nul. Je ne sais pas si ça va être un partout, 2-2, voire plus. Parce que ça va, il y a quand même des sacrés attaquants, mais je vais dire 2-2 aussi. Tant pis, je
C'est
vais
vrai
dire.
qu'il y a toujours beaucoup de buts entre Guardiola et
Ben, c'est
Barcelone
ça.
et Real Madrid, c'est vrai.
C'est ça. Ce n'est pas des équipes qui ferment le jeu. Je serais surpris, par exemple, s'il y avait un 0-0.
Ouais, c'est clair.
Je vous propose de passer à la deuxième demi-finale, donc qui aura lieu demain. Entre le Milan AC et l'Inter de Milan. Donc là, je ne sais pas si l'ordre de savoir qui reçoit en premier ou pas est important.
Ouais.
Il n'y a plus de but à l'extérieur et ils jouent dans le même stade. Donc voilà, donc l'ordre des matchs a très peu d'importance. Une demi-finale qui est donc un derby. Ce n'est pas inédit, puisqu'on se souvient qu'il y a quelques années, il y a eu un derby de Madrid en demi-finale et qu'on a eu des derbies de Londres, notamment Chelsea-Arsenal. Un quart de finale fut un temps. C'est la deuxième fois seulement que l'Inter et le Milan AC se rencontrent à ce stade de la compétition. La dernière fois, c'était en 2003. Et le Milan AC, in fine, avait gagné la compétition. Donc, une demi-finale qui s'annonce serrée entre deux équipes qui se connaissent très très bien. Et la particularité de ces deux équipes, c'est de compter dans leur rang, pour les deux, un gardien exceptionnel. D'où la question, est-ce que c'est un match de gardiens et est-ce que c'est les gardiens qui font la différence dans cette demi-finale, Marc?
Il va y avoir un tas de données qui vont faire la différence dans cette demi-finale. La première chose, c'est que c'est un derby. La ville est en effervescence depuis des jours. Je veux dire, c'est un match pas comme les autres, c'est hyper difficile à pronostiquer. Ben oui, c'est sûr que ça fait partie des deux meilleurs gardiens pour moi. Il doit y avoir Courtois devant, et moi je mettrais Meignan et Onana au même niveau. Ils ont tous les deux des qualités différentes. Onana, il est bon, il est très très bon au pied, il a un jeu de pied incroyable. Sur sa ligne, Mac Maignan, il nous sort des ballons, que ce soit en équipe de France ou là, en Coupe d'Europe, assez incroyable. Donc, je lisais quelque chose au niveau de Mac Maignan, là. Je crois qu'il a, quand Milan joue avec lui, c'est une défaite, hein, tous les 5 matchs. Et quand il est absent, parce qu'il a été absent quand même sur blessure pas mal,
Lui,
les
il a été
quelques
absent
mois.
6 mois, ce qui explique le match
Exact.
de Milan.
Ils perdent tous les 2 matchs et demi environ, tu sais. Donc, c'est quand même, tu sais, 71% d'arrêt aussi. Enfin, je veux dire, il est impressionnant. Ce gars-là est impressionnant. Pour la petite histoire, formé à Paris, et est arrivé pour remplacer Donnarumma, et Paris qui a repris Donnarumma derrière. Je ne suis pas sûr que Paris soit gagnant dans l'histoire. Bref, ça, c'était, je referme la parenthèse, mais voilà, je voulais quand même le placer. Et de l'autre côté, tu as Onana qui avait déjà été impressionnant avec l'Ajax. Donc ça, c'était en 2019,
Ouais, c'est le gardien
en
titulaire de
2018.
l'Ajax quand ils arrivent en demi-finale, ouais, tout à fait.
Il avait été incroyable, il avait été un des grands artisans du parcours énorme de l'Ajax qui, pour moi, devait aller en finale cette année-là. Je crois qu'il a un pourcentage d'arrêt aussi incroyable. Il est vraiment phénoménal. Franchement, c'est très compliqué. Quand on voit le match ce week-end, les deux équipes ont plutôt géré leur match correctement. Ils ont gagné en championnat. Franchement, bien malin celui qui va pronostiquer, à part d'être partisan pour Milan ou pour l'Inter. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi de sortir un vainqueur. Les deux gardiens vont faire partie évidemment de la donne, mais pour moi, ils sont excellents tous les deux et surtout très réguliers. Parce que celui de Manchester City dont tu parlais tout à l'heure, je ne sais
Ederson,
plus
ouais.
si c'est
C'est
Daniel,
Dani qui parlait d'Ederson. Moi, je suis pas fan
mais
d'Ederson.
je le trouve moins régulier. Je pense que c'est un gardien extraordinaire parfois et plutôt moyen d'autres fois. À l'inverse de Maignan et de Onana et puis de Courtois, qui pour moi sont hyper réguliers. C'est un peu comme Donnarumma pour moi aussi, qui est parfois génial avec l'équipe d'Italie, puis après qui se trouve sur des centres alors qu'il fait 2 mètres ou je ne sais plus combien. Donc, ça va être très compliqué à pronostiquer, mais je dirais que oui, les deux gardiens, tu as raison de poser la question comme ça, vont avoir une importance déterminante dans le déroulement du match. Mais bien malin pour moi de pronostiquer finalement un vainqueur sur cette confrontation.
Oui, merci Marc. D'ailleurs, au passage, hein, je sais que tu as insisté sur le fait que Mike Maignan avait été formé à Paris. Je sais que c'est ton autre club de cœur. André Onana, lui, a été formé au Barça. Et il était question qu'il revienne après la fin de son contrat à l'Ajax, qu'il revienne à remplacer Ter Stegen. Et finalement, il a atterri à l'Inter de Milan après, je ne sais pas si vous vous souvenez, que l'Olympique lyonnais de Peter Bosz, à l'époque, a essayé de le récupérer. Et ça fait écho avec ce que tu disais tout à l'heure. Jean-Michel Aulas avait refusé de le faire signer. Alors que Juninho voulait le faire signer pour protéger Anthony Lopez. Donc, Dani, sur cette demi-finale et sur cette histoire de gardien.
Ouais, pour rebondir sur Marc Maignan, à son actif, il a aussi une passe décisive hein, le week-end dernier, ce qui fait la
Ah.
passe à Théo Hernandez, et donc il est devenu passeur décisif
On
maintenant,
peut considérer
au-delà d'être un.
que c'est quand tu fais 100 mètres avec le ballon avant de marquer, c'est une passe décisive?
Écoute, c'est lui qui fait la passe à Théo, non? Donc ça restera dans ses stats, passe décisive. D'ailleurs, quand tu regardes les stats du match, le passeur décisif qui apparaît, c'est Marc Maignan.
Ah, c'est
Donc
vrai.
c'est assez surprenant. Enfin bon, tout ça, c'est vrai que ce match de Milan, dès Milan, ça va être vraiment un match à l'italienne, hein, traditionnel, comme on les connaît, comme on les aime, je ne sais pas. Parce que je me demande si ça va pas être justement le match où on va s'ennuyer un petit peu quand même. Parce qu'ils savent faire ça, hein, pendant 90 minutes, pas prendre de risques, jouer derrière, bloc très serré, et malgré la qualité quand même des deux effectifs, on risque peut-être justement de s'ennuyer un petit peu dans ce match-là. Pour moi aujourd'hui, d'un point de vue offensif, le Milan AC a peut-être quelques armes qui peuvent peut-être faire la différence. Moi, j'aime beaucoup le côté gauche. On en avait déjà parlé, mais l'animation Hernandez avec Léao. Alors, je sais pas, est-ce que Léao, parce qu'il s'est blessé au
Non,
match aller,
il sera
est-ce
absent.
qu'il
Pas
va faire
joué. C'est bien le problème, c'est que Léao, il va pas jouer.
Ah,
Ouais.
d'accord, donc ça c'est confirmé.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si c'est confirmé, vu qu'il est sorti à la 10e. Il s'est
Non,
fait
non, c'est
mal.
confirmé. 10e minute, ouais.
Il s'est fait mal aux
D'accord.
adducteurs et tout. À mon avis, il joue ni le match aller, ni le match retour. Hein.
Il joue
Ah
pas un
ouais,
match
donc.
aller, c'est sûr, c'est
Je
sûr. Ouais.
pense que la saison est
Ouais,
finie.
donc là, ouais.
Et c'est une grosse donnée. C'est une grosse donnée pour
Ah ouais,
Léao.
alors ça c'est une grosse information. Donc si effectivement Léa n'est pas là, parce qu'il est quand même c'est quand même le moteur hein, de l'animation offensive en ce moment, surtout sur le côté gauche. C'est vrai que c'est une donnée importante. Mais bon, je reste quand même persuadé que ça va, sur ce match aller, en tout cas, on va pas avoir de grosses surprises au niveau de la prise de risque, que ce soit de l'AC ou de l'Inter Milan. À mon avis, ça va être un match très tactique, comme les Italiens savent faire. On va avoir droit voilà, à un match vraiment traditionnel et qui peut se jouer éventuellement sur un contre. Et là-dessus, n'ayant pas, là pour le coup, je reviens sur ce que j'ai dit, si Léon n'est pas là, l'Inter avec Lukaku parfois peut créer aussi une mauvaise surprise au Milan AC.
S'il joue.
Ouais,
Ouais, il
s'il
jouera,
joue.
je pense. Il jouera, je pense.
Et là, sur les derniers matchs, il a quand même joué,
Il
il a
revient
dit.
en forme. Il revient en forme, je pense qu'il jouera. Je suis pas sûr qu'il démarre
Ouais,
avec
il
lui.
a.
Ça sera pas
Son...
Dzeko Lautaro, non?
Bah, son temps de jeu a tendance à augmenter depuis les 3 derniers matchs. Donc,
Ouais.
il est probable qu'il soit sur la feuille de match hein, et
Et
qu'il
il
soit
marque.
titulaire, peut-être.
Et il marque surtout.
Et en plus, il marque, ouais. Moi, je suis un peu comme Marc, je suis un peu embêté pour ce match-là parce que c'est un match vraiment voilà, où ça peut basculer d'un côté comme de l'autre assez facilement. Ça se jouera sur la fin, je pense, comme dans beaucoup de matchs italiens.
Moi, je vais
Ouais.
rebondir sur ce que tu disais, enfin, sur une donnée dont on n'a pas encore parlé. C'est vrai que si on prend les huitièmes et les quarts, c'était les deux équipes les mieux équilibrées, qui ont à chaque fois le mieux contrôlé leur huitième et leur quart de finale. Vraiment, on ne les a pas sentis en danger, ni le Milan AC contre Tottenham, ni le Milan AC sont passés contre Naples. Pareil pour l'Inter, contre Porto ou contre Benfica, finalement ils prennent très peu de buts. Enfin, l'Inter prend des buts
Mais
contre
ouais,
Benfica
c'est
une fois
ça,
que le match
mais c'est
est
ce que j'ai
plié. Donc,
tout ça sur une bonne assise défensive, quoi, des deux côtés d'ailleurs.
ouais, alors après, je dirais pas comme toi que c'est ennuyeux parce que c'est pas des équipes non plus qui ferment le jeu. C'est des équipes qui sont bien équilibrées, qui sont bien en place, qui sortent quand il faut sortir, qui savent gérer leur temps faible et leur temps fort. On n'est pas face à la Grèce en
Ouais,
2004,
non.
on n'est pas face à, excuse-moi, face au Portugal de 2016, qui était chiant à avoir joué. Non, on est sur des équipes qui ne jouent pas non plus que sur des contres. Maintenant, moi, je trouve là où ça va être très intéressant, c'est que malgré le fait que ce soit, entre guillemets, des équipes italiennes, on va avoir une opposition de style. On a le Milan AC qui joue en 4-2-3-1 avec des côtés forts, comme tu le disais tout à l'heure. Ça pouvait être intéressant justement sur l'opposition de style face à l'Inter de Milan qui joue en 3-5-2, c'est-à-dire avec des pistons. Moi, j'attendais de voir effectivement le face-à-face entre Raphaël Léao et Dumfries, puisqu'ils sont l'un est côté droit, l'autre est côté gauche. Je pense qu'aujourd'hui, moi je sais que j'ai donné le Milan AC en finale hein, il y a très très longtemps, mais aujourd'hui, vu l'état de forme de chacun, les blessures, etc., etc., je dirais que l'Inter est mieux armé. Parce que Dumfries, qui est le côté fort, il est à droite, c'est le côté fort interiste. Bah, face à lui, il a plus Léao. Donc pour prendre de son couloir, ça va être plus simple. Il va pas avoir les plongées de l'autre à gérer dans le dos. Donc je pense que ça va être un peu plus simple. Et puis le côté droit, il est un peu moins fort à Milan. Donc pareil, le côté gauche de l'Inter de Milan, on voit qu'ils ont un piston gauche, là, comment il s'appelle, Di Marco, qui est très très en forme en ce moment, là, qui a marqué encore ce week-end. Qui avait marqué contre le Benfica, il me semble. Donc ça va être assez intéressant parce que vraiment on a deux animations totalement différentes, qui est pas forcément le cas sur Real Manchester où on sait que les animations des milieux de terrain sont à peu près similaires. Et je pense que ce qui va jouer, ça va être au-delà des gardiens. Effectivement, on a deux des meilleurs gardiens du monde et on sait que, enfin, on le voit ces dernières années. Et dans les grandes compétitions, dans les coupes, pas les championnats, mais dans les coupes, que ce soit la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui a les gardiens qui lui fait les arrêts. Voilà. En 2018, outre le talent de Kylian Mbappé, la France y gagne parce qu'ils ont Lloris qui fait à chaque match un ou deux arrêts incroyables, malgré le fait qu'il fasse une grosse cagade en finale contre la Croatie. Le Portugal, ils gagnent l'Euro 2016 parce que, outre le fait qu'ils ont Ronaldo, ils ont Rui Patricio qui sort des arrêts incroyables dans tous les matchs à élimination directe. Donc, ces matchs-là, ça joue sur les gardiens. Donc, effectivement, le gardien, sur un match fermé, ces gardiens, ils vont avoir quoi? Un, deux, trois arrêts à faire dans le match. Faut qu'ils soient hyper concentrés. Faut pas qu'ils se ratent quand ça va arriver chez eux. Donc, effectivement, ça va jouer sur les gardiens. Je pense que l'Inter a un milieu de terrain supérieur. Je pense que la tripette, Çalhanoğlu, Barella, Brozovic, c'est quand même très très fort en termes de tenue de ballon. Et ils ont Mkhitaryan en plus sur le banc. Mais je pense quand même que Milan va passer au final parce qu'ils ont Maignan. Et que voilà, que Maignan et Courtois aujourd'hui, je ne sais même pas si je suis capable de les classer, je pense que c'est au même niveau. Et qu'Onana, il est un peu en dessous. Parce qu'Onana, il fait des super matchs les dernières fois. Mais il y a deux, trois fois où il est quand même bien, bien suppléé par ses défenseurs. Je me souviens d'un arrêt sur la ligne d'un défenseur de l'Inter, là, contre Porto, pareil contre Benfica. Il est pas aussi dominateur que les deux autres. Et donc, moi, je pense qu'au final, le Milan va passer par un trou de souris parce qu'ils ont Maignan. Donc, sur ce
Bah,
match-là,
l'Inter, il passe contre Porto, limite quand même, hein.
ben, ils passent limite, mais ils passent pas forcément que sur Onana. Ils ont un trio de défenseurs centrales qui fait un match incroyable au retour.
Bah, c'est Lukaku aussi qui fait une super entrée, hein.
Ça, c'est au match aller. Ça, c'est au match aller à Milan. Et au match retour,
Justement, mais ça s'est joué au match aller, cette
au match retour à Porto, là, t'as un défenseur central là, qui sort un truc sur sa ligne là, qu'Onana peut pas repousser, une frappe de Taremi. T'as une frappe de Taremi sur la transversale où Onana peut rien. On en revient toujours, hein, ça reste la coupe, donc tu as un facteur chance. Donc voilà, donc moi je vois là Milan s'imposer 1-0 sur un but sur corner de Simon Kjær. Voilà. Donc je te laisse la parole, Dani, tu voulais faire ton prono.
Bah, c'était mon prono à zéro.
Ben ouais, mais pour une fois, c'est moi qui commençais.
Ouais, moi, de toute façon, je vois le Milan gagner. Je dirais 2-1 du coup, alors.
Et Marc?
Je vois un bon 0-0 italien.
Je crois, je sais pas s'il n'y avait pas eu 0-0 au match aller en 2003 et si le Milan n'avait pas gagné 1-0 ou 2-0 au retour la fois d'après. Donc on va
Mais là où
passer.
ça risque, mais là,
Ah,
mais
dis-moi.
là où ça risque, juste pour finir sur les gardiens, là où ça risque de devenir le match des gardiens, ça sera peut-être au match retour, parce que ça, c'est le genre de rencontre entre l'aller et le retour qui peut se finir au tir au but. On en
Ah,
reparlera.
au tir au but, c'est le Milan qui passe. Ils ont le meilleur gardien du monde au tir au but. Donc, je pense qu'il y
Non,
a.
mais c'est. Ah, tout à fait. Non,
Non.
mais je suis là.
Ouais, je pense que. Mais là où tu as raison, pour eux, c'est une arme. Enfin, si ça sort
Non.
à 0-0 là, ils vont
Ouais.
jouer le 0-0 au
Ils...
retour pour aller au
Exactement.
but pour.
Ils savent qu'au tir au but, ils ont
Non, voilà.
une
Et en
probabilité forte de
améliorant au
passer.
tir au but, ça passe, quoi. Merci, au revoir. Donc voilà. Donc on va continuer dans les Coupes d'Europe et donc on va passer à la Ligue Europa pour notre séquence pronostique. On démarre avec un match, sans doute, peut-être le plus alléchant des deux, la demi-finale la plus alléchante des deux, entre la Juventus de Turin, qui a repris la deuxième place du championnat d'Italie hein, ce week-end,
Ouais.
et le FC Séville qui maintenant joue un peu libéré, ils sont sauvés en Liga quasiment, et ils ont donc plus que la Coupe d'Europe à jouer pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, en sachant que ce club a une histoire extraordinaire, c'est qu'à chaque fois quasiment qu'ils sont en Ligue Europa, ils la gagnent. Ils en ont déjà gagné 6 sur ces 20 dernières années. Donc ils sont de nouveau en demi-finale. Donc, Dani, vas-y, on te laisse démarrer. Juventus, FC Séville.
Ouais, non, c'est vrai, tu l'as dit, bah, la Juve a repris ce week-end la deuxième place du championnat, donc ils sont quand même, d'un point de vue émotionnel, ils sont quand même au top, là, hein, ils reviennent de loin. Séville, en face, c'est le contraire, ils sont 11e du championnat, alors c'est vrai qu'ils sont sauvés là, au niveau de la descente. Bon, ceci dit, ils jouent aucune place européenne, mis à part s'ils arrivent à gagner cette compétition. Même si tu as raison, Séville, c'est quand même. On a le Real de Madrid qui est le spécialiste de la Champions et Séville qui est le spécialiste de l'Europa League. La seule différence, c'est que le Real a un effectif quand même assez constant sur toutes ces années-là, alors que Séville, je trouve que cette année est quand même assez limite. Je ne les vois pas réaliser un exploit en Coupe d'Europe. Je vois la Juve passer, et là, pour le match aller à l'extérieur, en tout cas, pour eux, ça, je vois Juventus gagner 2-1.
C'est la Juve hein, qui reçoit.
Ouais, c'est la Juve qui reçoit, ouais. Je les vois gagner 2-1.
Marc?
Bah, tu vous l'avais dit, hein, Séville est sauvée. Donc, quand cette équipe joue libérée, c'est une équipe très surprenante. Et ils ont absolument rien à perdre. Ils vont arriver libérés. Et moi, je vois justement la petite surprise, sévillane. Alors, c'est le cœur qui parle un peu. Mais je pense qu'ils vont jouer un mauvais tour à la Juve. Alors, peut-être pas au match aller. Mais sur l'ensemble des deux rencontres, je vois bien Séville l'emporter cette année.
Bon, moi je vous cache pas que ça arrangerait quand même les clubs français qu'il y ait une des deux équipes italiennes qui remporte l'Europa League, parce que
Eh oui.
ça ferait que le troisième du championnat de France est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Par exemple, si Lens termine troisième, on sait qu'ils vont avoir un tirage au sort terrible et qu'ils ne qualifieront pas pour les poules. J'ai du mal à y croire. Donc ça nous arrangerait bien qu'il y ait une des deux équipes italiennes qui remporte la Ligue des Champions. Pardon, pas la Ligue des Champions, la
La Ligue
Europa League.
d'Europe.
Bon. Si ça doit être une de celles-ci, à mon avis, c'est la Juve. J'ai plus confiance en la Juve qu'en la Roma, en tout cas sur les matchs que j'ai vus ces derniers temps. Maintenant, honnêtement, moi, je pense que Séville, effectivement, ils arrivent totalement libérés et que ça va être très, très compliqué sur les deux matchs pour la Juve. Je ne suis pas d'accord avec toi, Dani. Moi, je pense que le Séville, ils ont un bel effectif. Ils ont fait un mauvais début de championnat qui a coûté sa place à Lopetegui. Mais ils ont un super effectif. Ils ont quand même un gardien demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ils ont deux champions du monde en latéraux, puisqu'ils ont Acuña à côté gauche et Montiel, je crois, à côté droit, qui nous met le dernier pénalty dans la séance de pénalty. Ils ont Rakitic au milieu. Ils ont l'attaquant du Maroc devant. Ils n'ont pas une équipe de pingouins, hein, les mecs. Donc.
Mais c'est une équipe déséquilibrée.
Mais là, maintenant qu'ils jouent libéré et que c'est leur seule manière
Oui.
de raccrocher la Coupe d'Europe l'an prochain, je les vois très très durs à battre, que ce soit en demi-finale ou en finale.
Ils ont
Donc
encore
moi,
trois matchs à jouer.
j'irai 1-1 au match aller. Et par contre, après à Sanchez-Pizjuan, ça va être très 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 compliqué
Ah oui.
pour la Juve. La dernière fois que la Juve s'est retrouvée dans cette situation, je ne sais pas si tu t'en souviens, Dani, la dernière demi-finale d'Europa League qu'ils ont joué, c'est contre le Benfica. En 2014, je crois, ou en 2013, ils avaient une équipe incroyable à jouer. Ils avaient Pirlo, ils avaient Pogba, ils avaient Tevez. Et ils ont pris une rouste à la louche. Parce que
À la
voilà,
louche, ouais.
Benfica jouait que ça à la Juve, ils jouaient le championnat. Ils avaient pris une veste dans le match retour. C'était incroyable. Donc, franchement, moi, je vois Séville emporter sur les deux matchs et 1-1 au match aller. Voilà. Donc, il reste la deuxième équipe italienne pour éventuellement sauver les chances françaises en Ligue des Champions. Donc, c'est pareil, hein, c'est les équipes italiennes qui reçoivent hein, ce match aller. Donc, l'AS Roma reçoit le Bayer Leverkusen. Donc, c'est une demi-finale sans doute un peu moins, je sais pas, je dirais pas passionnante, mais un peu plus difficile à lire. Puisque, donc, la Roma, là, aujourd'hui, ils sont 6e, 7e du championnat d'Italie. Et les Leverkusen, ils sont 7e du championnat d'Allemagne ou 8e. Donc, on a finalement une opposition entre deux équipes du ventre mou de leur championnat, chacun, même si la Roma peut toujours accrocher la Champions. Donc, Marc.
Enfin, je ne vous cache pas que je ne regarde pas tous les matchs de Leverkusen, donc je n'ai pas un avis vraiment très pertinent sur Leverkusen. Le truc rigolo, entre guillemets, c'est que c'est quand même une confrontation entre un entraîneur et son ancien joueur. Que Xabi Alonso a été sous les couleurs du Real Madrid, c'est ça. Il a été entraîné par Mourinho. Deuxième fait, je pense, intéressant, c'est que je pense que c'est la dernière année à la Roma pour Mourinho, qui est fortement courtisé par le PSG. On avait déjà parlé il y a quelques semaines. Donc, je pense qu'il aura à cœur de les amener jusqu'au bout. Je mets une petite pièce sur la Roma, sachant que Leverkusen, encore une fois, je ne vais pas vous mentir, pas une grosse, grosse, grosse connaissance sur Leverkusen.
Dani?
Ouais, moi je suis d'accord avec Marc sur le par rapport à Mourinho au PSG. Donc du coup, il va nous faire le coup de l'Inter de Milan. C'est-à-dire sa dernière année à l'Inter, il gagne la Ligue des Champions. Il a su justement motiver ses troupes pour réussir ce challenge-là. Et là, cette année, de toute façon, on l'a vu la semaine dernière, c'est vrai que la place qualificative pour la Roma en Ligue des Champions, ça va quand même être très compliqué, hein. Il y a une grosse bataille là devant, même si ça se joue à quelques points. Hein. Donc, je vois moi Mourinho quand même mettre plus ses armes sur la compétition européenne. Et il va vouloir vraiment finir en beauté à la Roma en gagnant une compétition européenne à nouveau. Parce que je suis d'accord avec Marc, on le reverra pas l'année prochaine sur le banc de la Roma. Donc là, sur ce match aller, je vois la Roma gagner 2-0 à domicile.
Leverkusen, ils ont quand même effectivement, comme l'a dit Marc, des attaquants qui vont très 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 vite. Que ce soit Diaby qui a été formé à Paris aussi, que ce soit Amine Adli qui a été formé à Toulouse, ils ont quand même des jeunes attaquants français qui vont très très vite, qui sont durs à prendre. Donc ça va être intéressant de voir comment va la défense de la Roma par rapport à cette attaque-là. Moi, j'ai trouvé la Roma assez décevante sur le match contre l'Inter. Alors, je les ai trouvés physiquement très au point, beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement, beaucoup de duels, mais avec le ballon très très pauvre techniquement. J'ai peur qu'ils aient pas beaucoup de ballon contre les Leverkusen. Est-ce qu'ils vont pouvoir courir, faire le pressing autant qu'ils l'ont fait ce week-end, parce qu'ils se sont pas du tout ménagés ce week-end. Ça a joué la qualification directe en Ligue des Champions, donc ils sont pas, Mourinho a pas vraiment fait tourner. Voilà, je demande à voir. Donc moi, je pense que malheureusement les Leverkusen va les accrocher à Rome 2-2 et que ça se jouera au retour en Allemagne. Mais ça, je vois pas du tout ce qui va se passer pour l'instant. Ça va dépendre de comment Mourinho va gérer son effectif ce week-end. On aura deux matchs retour passionnants en Ligue Europa, en tout cas c'est une semaine qu'on va passer beaucoup devant la télé, sauf peut-être pour le dernier match.
Ouais.
On a un match entre deux concurrents directs encore ce week-end. Donc Brest reçoit l'AJ Auxerre. Donc, Marc, puisque tu as l'air d'être le plus passionné là sur la question.
Non, ouais. Non, mais bon, c'est un match qui est hyper décisif. Effectivement, Nantes semble dans une dégringolade absolue depuis un grand moment. Avant la finale de Coupe de France, déjà, ils étaient au plus mal. Là, c'est le 15e contre le 16e. Auxerre, ils ont un gros calendrier jusqu'à la fin. Je pense qu'ils vont affronter Paris et Lens, si je ne me trompe pas dans les derniers matchs.
Non, mais je pense qu'ils vont affronter Paris et Lens démobilisés. C'est ce qui va leur peut-être leur
Ah, ben, moi je le voyais dans l'autre sens, mais effectivement, ça peut être. Je pense que s'ils ont un match à ne pas perdre, c'est contre Brest. Donc, je pense qu'Auxerre vraiment vont tout jouer là, sur ce match-là, ou du moins une grande partie. Et je pense qu'ils vont l'emporter à Brest. C'est mon pari un peu de folie.
Bah, moi, enfin, je sais qu'on en a déjà parlé hein, ici. On s'était moqué de moi quand j'avais dit à l'époque qu'Auxerre était la 9e équipe des matchs retour. Je crois qu'ils sont un peu plus haut maintenant. Donc, contre les grosses équipes, ils tiennent tête aussi. C'est vrai que le match, il est décisif pour les deux équipes. Mais je ne sais pas si les deux équipes. Alors, c'est vrai qu'il y a une des deux équipes qui gagne. Je dirais qu'elle est quasiment sauvée. Surtout si c'est Auxerre. Si les deux équipes font match nul et que Nantes ne gagne pas ce week-end, en sachant que Nantes va à Toulouse, même si c'est une revanche de la finale. Il y a un contentieux entre les deux clubs et tout. On sent quand même que les Toulousains, ils sont en vacances depuis la finale. Donc, si Nantes a une chance de se refaire, c'est ce samedi au Stadium. On peut avoir un match fermé où les deux équipes jouent le match nul pour prendre un point. Mais pareil, hein, Brest, c'est une équipe en forme. Hein. Brest, ils reviennent de loin, ils sont partis de loin. Genre, on l'avait dit à un autre moment dans cette émission, ils ont grignoté match après match leur retard sur le premier relégable et ils sont passés devant Nantes au dernier match. Mais quand même. Ouais, moi je vois un match nul un partout. Dani?
Moi, je
À la
pense que
fin.
Brest va sauver Nantes. Je pense que Brest va sauver Nantes. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé, comme c'était dans les pronos des dernières émissions qu'on a fait et qu'on s'intéresse un peu au bas du classement. Sur les deux derniers matchs, en observant un peu Strasbourg et Brest, je trouve que ça joue pas mal quand même par rapport à Auxerre et Nantes, justement. Moi, j'ai quand même l'impression que cette quatrième place de relégable va se jouer entre Auxerre et Nantes. Donc, je vois Brest gagner, moi, sur ce match-là. À domicile, en plus, ils vont être avec leur public. Ils ont fait un super match contre Nantes, hein. Je sais pas si vous avez regardé un peu les
Ah
images,
ouais, non, mais
mais
moi j'ai regardé.
Brest. Ah,
J'ai regardé ces
ah non,
matchs.
moi, j'ai regardé. Et franchement, Brest contre Nantes, ils font un super match. Du début à la fin.
Ils font un super match, mais ils sont aidés par la cagade de Alban Lafont.
Oui, ok,
Oui,
c'est vrai. Moi, je verrais, non, sur ce match-là, je vois vraiment Brest gagner. Et du coup, ça va aider Nantes, qui peut, ce week-end, peut-être avoir une petite surprise et aller chercher peut-être une victoire, la première depuis je ne sais combien de temps, qui leur ferait un grand bien, qui les repositionnerait un petit peu sur cette lutte, quoi.
Ben écoute, on verra. Moi, c'est vrai que je trouve que Nantes, c'est vraiment ces quatre équipes, c'est l'équipe où la plus mal, quoi. C'est juste une catastrophe.
Ah ouais,
C'est
tout à fait.
catastrophique au niveau du fond de jeu, au niveau de tout. Auxerre, c'est moins
Il n'y a
spectaculaire
pas, il n'y en a
que
pas.
Auxerre, c'est moins
N'y a pas de
spectaculaire
fond de jeu.
que Brest et Strasbourg, je te l'accorde, mais c'est solide. Voilà, moi, j'avais vu le match contre Lille. Alors, c'est vrai ils jouent quoi, en 5-4-1 ou en 4-5-1. Ça
Ouais,
bétonne.
voilà.
Ils ont un Bagnard devant. Mais ils ont des petits ailiers qui sont pas mauvais, ça va vite, ça se projette vite. C'est presque du jeu traditionnel auxerrois en contre, hein. Mais voilà. Donc moi c'est vrai que le match nul, finalement pour eux ça peut être une bonne stratégie si comme tu dis ça gagne pas, mais tu prends un point après un point comme les autres ils gagnent pas derrière.
Ouais,
À la fin
il
tu
reste en place.
ouais, à la fin ça fait des points. Donc ben voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on va vivre une semaine passionnante, que ce soit en Coupe d'Europe ou dans le bas du tableau en Ligue 1. Et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer sur ces matchs aller et surtout prévoir les matchs retour. Et donc on vous souhaite bonne semaine, bon canapé, bonne bière, bonne pizza devant les matchs de Coupe d'Europe. Et à mardi prochain.
Salut à tous, bye.
Allez, salut à tous, bonne soirée.